Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy. La semaine dernière, on parlait de Madame Lalaurie et cette semaine, pour Halloween, on va parler de poupées hantées. À quoi vous pensez quand je vous dis poupée hantée ? Annabelle, Chucky, Barbie. Déjà, d'où vient ce concept, si on peut dire, de la poupée hantée ? Une poupée hantée, par définition, c'est une figurine qui représente en général une forme humaine ou animale faite à la main, ou à l'usine d'ailleurs, et on lui attribue le fait d'être possédée par quelque chose en général de maléfique. Soit par une malédiction ou un sort qu'on lui aurait jeté. Ou alors, carrément, il y aurait quelqu'un qui vit dedans et qui en prend possession. Les premières poupées dites hantées remontent à très très longtemps, au temps des premiers peuples qui, au début, on le sait, représentaient les humains et les autres êtres vivants, ou pas, par des dessins sur les murs ou sur des plaquettes gravées. Et ensuite, ils se sont lassés, ils voulaient quelque chose d'un peu plus 3D. Donc ils ont, avec leurs moyens du bord, créé toutes sortes de poupées avec des brindilles et de la boue. Ils créent des petits bonhommes, donc à but d'être des jouets. Ils recréent leurs dieux en 3D et du coup, ils créent également les figurines des démons, forcément, qui vont avec. Donc en gros, ils inventent les marionnettes et ils les utilisent pour apprendre à leurs enfants les différents dieux et démons qui existent à cette époque, dans la culture de l'Égypte antique. Donc du coup, il leur attribue des pouvoirs. Telle poupée, c'est la déesse truc, elle a le pouvoir de ceci. Et tel démon, il est mauvais parce qu'il a le pouvoir de faire cela. À l'époque, comme ils sont très superstitieux, ils les utilisent dans la vie de tous les jours. Donc par exemple, si tu voulais avoir un enfant rapidement, ben, tu allais te procurer une poupée de la fertilité. Et voilà, enfin, vous voyez le genre d'utilité des poupées. Ça, c'est pas seulement pour les Égyptiens, il y a tous les premiers peuples en général qui font usage des poupées, et par exemple, on peut citer le vaudou, par exemple, où les objets sont porteurs de signification, d'attributs, de pouvoir, et on les utilise à des fins religieuses ou cérémonielles, on espère en tirer des bonnes choses ou des mauvaises choses. Donc on retrouve ça un peu partout dans le monde. Le vaudou, c'était seulement un exemple. On retrouve des pratiques similaires en Asie, en Afrique, en Amérique, etc. Je ne vais pas les nommer. Si vous voulez faire des recherches, vous pouvez trouver les différentes statuettes et pouvoirs qui pouvaient circuler à cette époque-là. Mais aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord, quand on dit poupée hantée, on pense surtout à une poupée possédée qui bouge toute seule, qui veut du mal à quiconque l'aurait en sa possession. De préférence, une famille américaine. Et je pense qu'on a déjà tous fait le test quand on était petit, laisser nos jouets derrière nous et puis se retourner d'un coup pour voir s'ils n'ont pas bougé pendant qu'on ne regardait pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a une tonne de films avec des poupées et je crois que c'est parce que, au-delà du fait que, voilà, elles seraient possédées peut-être, déjà juste d'apparence qu'elles ressemblent à des démons ou qu'elles aient des têtes de bébés tout souriants, peu importe à quoi elles ressemblent, elles font toujours flipper. Et justement, les poupées hantées, ça ne relève pas seulement de la fiction. Les plus iconiques films d'horreur tirent leurs histoires de faits très réels. Et je vais justement vous raconter pas une, mais deux histoires, dont la première qui a inspiré le réalisateur du film, d'ailleurs des films, Chucky. J'aurais pu vous parler d'Annabelle, mais tout le monde la connaît, je pense. Et comme toujours, je ne vous raconte que des histoires vraies. Je suis pas une grande fan du fantastique et de la science-fiction. Pour moi, ce qui fait vraiment flipper, c'est les horreurs dans la vraie vie. Et il y en a beaucoup, donc je me dis que vaut mieux commencer par là avant d'en inventer des nouvelles. On commence par une histoire plus connue d'abord. Et ensuite, une autre que je connaissais pas jusque il y a quelques jours. Mais elle est creepy à souhait, avec photos à l'appui, ça m'a donné la gerbe, donc voilà, tout est dit. let's go, c'est parti. La première histoire est celle de la poupée Robert. Ça se passe en 1896 sur l'île de Key West en Floride. Le couple Otto emménage dans leur nouvelle maison au 534 Eaton Street. C'est une famille aisée, Thomas Otto est docteur, donc il mène la belle vie. Cependant, la rumeur court dans le quartier qu'ils ne sont pas terribles vis-à-vis de leur domestique. Ils engagent une jeune femme d'origine haïtienne comme nounou pour leur fils qui s'appelle Robert Eugène et qui a 6 ans. Celle-ci serait une pratiquante de la magie noire et les rumeurs disent qu'elle aurait été surprise en train d'exercer dans leur jardin par Madame Otto et celle-ci décida de la virer immédiatement. Avant de partir, elle aurait confectionné une poupée pour leur fils avec de vieux vêtements qu'elle remplit de paille et qui fait 1 mètre de haut, donc c'est une très grande poupée. Il a 2 boutons noirs à la place des yeux et des cheveux en laine. Elle offre cette poupée au petit Robert Eugène en guise d'adieu. On dit qu'elle aurait jeté un sort à la poupée pour se venger du couple qui l'a congédiée. Je dis « on dit » parce qu'en fait, la poupée elle aurait été faite par une usine en Allemagne et ce serait le grand-père du petit Robert Eugène qui l'aurait ramené et lui aurait offert. Donc on ne sait pas d'où vient vraiment la poupée, mais moi je vais garder la version de la femme congédiée parce que voilà, c'est plus creepy. Robert Eugène, il adore cette poupée, il passe toutes ses journées avec, tellement qu'il finit par lui donner un nom, le même que lui, Robert. Donc voilà, il lui dit, j'ai 2 prénoms, toi tu prends Robert, et moi je garde Eugène. Les parents, quand ils voient la poupée, ils ont qu'une envie, c'est de la foutre à la poubelle, mais en voyant que leur fils, il s'y est vraiment attaché, il lui laisse. Et il fait tout avec la poupée, il dort avec la nuit, il se promène avec, il joue avec, il la place à table à tous les repas et il lui donne même à manger en cachette. Les parents, ils trouvent ça chelou, mais ma foi, ça l'occupe. Ils se disent par contre que ça commence à être grave quand ils s'aperçoivent au bout d'un moment que leur fils, il parle tout seul dans sa chambre et qu'ils n'entendent pas qu'une de voix, mais 2. Quand il parle pour la poupée lors de jeux de rôle, il parle avec un ton différent, une voix grave, une voix d'adulte. Eugène, il dit
« Tu veux jouer à la dinette ?»
Et la poupée répond
« Ouais, vas-y, sors les couverts !»
J'ai un peu du mal à faire des blagues là parce que j'ai 40 photos de la poupée Robert enregistrées sur mon ordinateur pour pouvoir vous les poster sur Twitter, donc bon, je vais aller me purifier après quand même. C'est juste pour vous donner une idée de ce que pouvaient entendre les parents derrière la porte. Leur fils demande à ce qu'il se fasse désormais non plus appeler Robert Eugène, mais juste Eugène, car c'est la poupée qui s'appelle Robert désormais. La mère commence à flipper un peu à ce stade, et elle se met à surveiller de plus près son fils, car sa personnalité va changer brusquement. Un coup il est agité, un coup il fixe Robert pendant des heures, un coup elle le retrouve effrayé dans un coin de sa chambre. Il se met à faire beaucoup de cauchemars et il y a des jours où il est à fond sur Robert et d'autres jours où carrément il s'en méfie et il a peur de lui. Un soir, alors que tout le monde se repose, un gros bruit se fait entendre depuis la chambre de leur fils. Il retrouve sa chambre sans dessus-dessous, les meubles retournés. Eugène leur dit direct
« C'est pas moi, c'est Robert ».
Plusieurs incidents de ce type se reproduisent et toujours, quand ses parents le sermonnent, Eugène, contrarié, leur dit qu'il n'y est pour rien et que c'est Robert. Les parents signalent d'autres faits qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ils disent qu'ils partent le matin pour aller travailler et quand ils rentrent, Robert n'est jamais à l'endroit où ils l'ont laissé. Les domestiques, eux, j'imagine qu'ils n'y touchent pas à la poupée parce que même du petit Eugène, ils en ont peur. Donc peut-être que c'est eux qui le déplacent quand le couple et Eugène sont pas là parce que forcément ce sont eux qui font le ménage. Mais en tout cas, les parents disent que personne ne touchait à la poupée et pourtant elle n'était jamais à l'endroit où il la laissait. Les domestiques, ils en ont tellement peur à un moment qu'ils démissionnent un à un, effrayés de se retrouver dans la même maison. Des personnes extérieures à la maison, des amis du couple, diront que le regard de la poupée changeait au cours de la journée. Donc les habitants de la maison, ce ne sont pas les seuls à vivre ces phénomènes paranormaux. On dit également que des fois, on peut apercevoir, du coin de l'œil, une petite personne courir dans la maison. Parfois, on entend même des rires. Le couple en a assez de la poupée. Il l'enferme dans une boîte et la monte au grenier. Les années passent, Robert Eugène grandit et devient artiste peintre. À la mort de ses parents, il hérite de la maison familiale et dit un jour à sa femme
« Et si j'allais chercher Robert au grenier ?»
Sa femme lui répondit
« Bah oui, tiens, bonne idée !»
Non, en vrai, je sais pas ce que sa femme lui répond, mais elle est pas trop emballée parce que depuis qu'elle l'a vue pour la première fois, la poupée, elle l'enchante pas du tout et en plus, elle comprend pas pourquoi son mari est encore autant à fond dessus. Malgré ça, Eugène lui aménage une petite place dans les combles de la maison. À la poupée, hein, pas à sa femme. Mais un jour, Eugène vient la voir et lui dit que Robert, il aime pas sa chambre. Qu'il n'y a pas assez de fenêtres et que Robert n'arrive pas à bien voir la rue dehors. Ce à quoi sa femme va lui répondre, comme on aurait tous répondu.
Ok.
Il déplace alors la poupée dans une chambre plus grande et très vite, des enfants du quartier remarquent que la poupée les observe depuis la fenêtre de la chambre. Ils disent même l'apercevoir à plusieurs fenêtres de la maison. Et à nouveau, d'autres histoires paranormales sont relatées par des gens qui sont seulement de passage chez Eugène et sa femme. Un plombier repart un jour en hâte en laissant tous ses outils derrière lui, en disant que la poupée aurait changé de place dans son dos en rigolant. D'autres invités, en train de discuter un jour dans la même pièce que la poupée, constate que son expression se met à changer quand il commence à parler d'Eugène Otto, comme si elle entendait tout ce qu'il disait sur lui et que ça ne lui plaisait pas du tout. Viennent les années 1970 et là Eugène tombe soudainement malade. Je ne sais pas de quoi, mais il décide de s'enfermer seul avec Robert dans la chambre et comme au bon vieux temps, il passe ses journées avec, délaissant sa femme. Il meurt en 1972, sa poupée à côté de lui. Sa femme finit par vendre la maison et elle repart vivre avec sa famille dans le Massachusetts, à Boston, à l'autre bout du pays, en laissant Robert à nouveau dans le grenier. Quand une toute nouvelle famille vient s'installer dans la maison quelques années plus tard, en 1974, ils dépoussièrent le grenier et découvrent la poupée Robert sous un tas de boîtes. La petite de la famille, Myrtle, qui a 10 ans, demande alors à s'en occuper. Elle l'installe dans sa chambre. Et rebelote, ça recommence. Elle se réveille en pleine nuit en hurlant. Elle dit avoir vu la poupée courir et sauter sur son lit. Sur ce, les parents font don de la poupée au Fort East Martello Museum. Et c'est là que vous pourrez trouver la poupée aujourd'hui. Il est dit que Myrtle meurt seulement quelques mois plus tard. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller dormir dans la maison des Otto. C'est un bed and breakfast aujourd'hui. Et il paraît que, bien que la poupée ne soit plus sur les lieux, le fantôme de Anne, la femme de Eugène, errerait toujours dans la maison afin de l'en protéger de l'esprit frappeur de Robert. Pour ce qui est de la poupée, elle est donc au musée en Floride depuis et elle ferait toujours des siennes, notamment envers ceux qui lui manqueraient de respect. On dit que si vous ne demandez pas la permission avant de prendre sa photo, vous n'y arriverez pas, car vous aurez soudain des problèmes de téléphone ou d'appareil photo. La légende raconte que si vous lui demandez poliment de prendre sa photo, il inclinera la tête pour vous donner le feu vert. Mais s'il ne bouge pas, bah vous en prenez pas. Ok, c'est compris? Ceux qui ont désobéi en ont fait les frais, car la poupée reçoit tous les jours des lettres lui demandant pardon. Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo de Robert que je vais mettre sur Twitter, derrière la vitre, vous pouvez voir que les employés du musée collent les lettres pour que Robert puisse les lire. Voilà, c'était l'histoire de la poupée Robert. Personnellement, je vais me passer de commentaires pour des raisons personnelles et notamment de survie. Et on part au Mexique pour la deuxième histoire.
La Pascualita.
Le 25 mars 1930, à Chihuahua, Pascualita Esparza, propriétaire d'un magasin de robes de mariée nommé La Popular, est en train de refaire sa vitrine. Elle y amène un tout nouveau mannequin, une poupée de cire représentant une jeune fille vêtue d'une robe blanche. Rapidement, les passants s'attardent devant la boutique pour la regarder de plus près. C'est bizarre, ce visage leur dit quelque chose. Ses grands yeux et ce petit sourire, oui, ils l'ont déjà vu. La poupée ressemble comme deux gouttes d'eau à la fille de la propriétaire de la boutique. C'est très mignon tout ça, sauf que sa fille, elle est morte depuis peu, et en la regardant de plus près, les gens remarquent que la poupée est un peu trop réaliste. Sa peau est de différentes couleurs, rose par endroits, jusque dans les petits plis de ses mains qui sont tous là. Toutes les petites ridules sont dessinées, ses ongles sont incroyablement réalistes, irréguliers et d'une couleur douteuse. Ses yeux ne sont pas dessinés comme la plupart des mannequins de l'époque, elle a de vrais yeux bien brillants. La fille de Pascualita est morte tragiquement le jour de son mariage. Elle se trouvait devant l'hôtel quand une araignée la pique, une veuve noire. Et c'est donc, très intrigué par ces coïncidences physiques et le timing, que les passants demandent à Pascualita où elle s'est procuré ce mannequin. Seulement, Pascualita va leur servir différentes versions. À certains, elle dira qu'elle l'a fait venir de Paris. À d'autres, qu'elle l'a acheté à Mexico dans une boutique de luxe qui s'appelle El Puerto de Liverpool. Je parle pas espagnol, donc ok. Elle aurait tellement aimé le mannequin qu'elle les aurait forcés à le lui vendre en les menaçant qu'elle ne viendrait plus se fournir chez eux si il ne lui donnait pas. Demande à laquelle ils ont fini par céder. Peu importe ses explications, la rumeur court que Pascualita, n'acceptant pas le décès de sa fille, aurait décidé de la faire embaumer et de s'en servir comme mannequin dans sa vitrine de sa boutique de mariée. Pascualita est inondée de coups de téléphone anonymes dans lesquels les gens lui font partager leur dégoût. Fatiguée de ce harcèlement incessant, Pascualita décide d'écrire un communiqué dans lequel elle dément tout ce dont on l'accuse. Elle se rend chez un notaire pour officialiser ses dires et diffuse ensuite sa lettre dans toute la presse locale. Mais c'est trop tard, personne ne veut la croire. Un jour, des policiers se présentent à la boutique de Pasqualita, mais celle-ci est justement occupée à la nettoyer. Elle lui lave les cheveux, le corps, car toute cette affaire lui a amené beaucoup de visiteurs à travers le pays qui viennent voir de leurs propres yeux le mannequin et, au passage, ils en profitent pour lui enfoncer leurs ongles dans la cire ou lui tirer les cheveux pour vérifier si la rumeur est vraie. Après, bon, j'imagine que ce genre d'incident, ça arrive une fois et après, tu leur interdis de toucher le mannequin. Donc, je comprends pas pourquoi elle continue de lui laver les cheveux. Mais bon, suspect donc. Donc, les policiers, ils veulent voir le mannequin, mais Pasqualita leur dit non, revenez plus tard, je suis occupée. Voilà. Les policiers insistent et refusent de partir sans l'avoir inspectée. Elle finit par accepter et les amène à la poupée qui est en train de sécher dans une autre pièce. En peignoir et une serviette autour de ses cheveux. La police veut voir son corps et Pasqualita refuse. Elle trouve cela indécent. Bon, on est en 1930, mais enfin bon, quand même, tu peux déshabiller une poupée de cire quand même, non? Surtout si c'est la police qui te le demande. Enfin, je sais pas. Enfin bon. C'est pas précisé réellement si c'est une visite liée à une enquête formelle ou quoi, donc ça se peut que c'est bien des vieux policiers chelous qui sont juste venus pour s'amuser parce qu'ils avaient rien à foutre de mieux. Et enfin, vous voyez le style, ils viennent, ils rigolent, ils disent « vas-y, des imbéciles, là, la poupée, on veut regarder ». Enfin, je sais pas en fait si c'est formel ou pas, dans tous les cas, on n'en sait pas plus, ils arrivent pas à lui faire enlever ses vêtements et ils repartent. Il est dit aussi qu'on ne sait pas ce qui s'est dit entre la police et la propriétaire au final, mais quand les gens leur demandent si c'était vraiment le corps de sa fille à l'intérieur, ils ne répondront pas à la question, ce qui forcément ravive les conspirationnistes. Les habitants de Chihuahua disent qu'ils voient la position du mannequin bouger du soir au matin, qu'elle les suit du regard et d'autres disent carrément l'avoir erré dans les rues la nuit. Si ce n'est pas sa fille et juste un mannequin, alors il pense qu'il est habité par l'âme de sa fille et qu'elle vit à travers lui à la nuit tombée. La Populaire devient la boutique de mariée la plus fréquentée de la ville et des visiteurs du monde entier s'y rendent toujours aujourd'hui. Les employés du magasin perpétuent la légende car ils racontent qu'eux aussi sont témoins d'événements paranormaux. Ils disent avoir vu la poupée bouger, pleurer et même transpirer. Certains démissionnent, mais les autres l'évitent et redoutent de s'en approcher ou de devoir la toucher pour changer sa robe deux fois par semaine. Une employée, Sonia Burciaga, dira, je cite, « Chaque fois que je vais à proximité de la poupée, mes mains se couvrent de sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois que c'est une vraie personne. » C'est pourquoi, quand ils la changent, ils prennent le soin de l'emmener dans une cabine d'essayage à l'abri des regards. Monsieur Gonzalez, le propriétaire à ce jour, reste évasif aux questions concernant la poupée, entretenant le mythe. Depuis, tous les 2 novembre, le jour des morts au Mexique, on vient rendre hommage à Pasqualita en lui faisant des offrandes. Et la légende dit que si vous achetez une robe à son magasin, vous aurez l'assurance d'un mariage heureux. Voilà, c'était mes 2 histoires préférées de poupées hantées. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous mets encore une fois toutes les photos sur Twitter, @secreepypod. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment si vous pensez que la Pasqualita est faite de cire ou de chair. J'aimerais bien avoir votre avis. Je trouve perso que les photos sont carrément flippantes, tellement le détail sur les mains de la poupée est réaliste. Même son visage, il me donne des frissons à regarder. Enfin, franchement, j'ai des doutes. Alors, dans mes recherches, j'ai entendu que la police aurait débunké l'affaire en faisant un scan pour voir s'il y avait oui ou non un corps à l'intérieur de la poupée. Mais ils n'auraient rien trouvé de suspect et que c'était juste une poupée juste incroyablement réaliste. J'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas parce que dans la plupart des articles que j'ai lus, il n'y avait pas de mention de cette enquête. Et au final, même si elle est vraiment creepy et qu'elle est très réaliste, je pense qu'ils ont quand même dû vérifier à un moment, parce que ça fait quand même plus de 89 ans, que la poupée est dans la vitrine. Mais moi, je pense qu'il y a un problème quand même avec cette poupée. Vous me direz si vous trouvez que y a rien de spécial et que vous envoyez comme ça à Galerie Lafayette, mais moi personnellement, c'est la première fois que je vois un truc aussi morbide. Pour ce qui est de la poupée Robert, l'histoire est d'autant plus flippante du fait que Eugène était à fond sur sa poupée jusqu'à la fin de ses jours, et non pas juste quand il était enfant. La première fois que j'ai entendu l'histoire, je me suis dit bon bah voilà, il a une poupée, voilà comme d'habitude, et puis il grandit et il la laisse dans un coin où il la donne à un musée. Sauf que non, c'est une histoire où il récupère la poupée plus tard. Et il redevient gaga de sa poupée et il va, à ses 73 ans, mourir avec sa poupée quand même. Enfin, 73 ans, je suis pas sûre, mais dans sa 70aine. Je sais pas comment sa femme a fait pour habiter dans cette maison avec la poupée qui était là d'ailleurs. Robert avait pas l'air de faire vraiment du mal à qui que ce soit. Après, j'en sais rien, il faisait plus peur qu'autre chose. Mais voilà. Je ne sais pas de quelle malédiction sont frappés les gens qui lui ont manqué de respect au musée, mais ça leur a fait prendre un crayon et écrire une lettre quand même. Donc, quand même. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bien.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur.
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier, au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple. Tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
Creepy.